Directeur Jeux Radio Insolite à la halle, dans les Halles de Lyon, Paul Bocuse, dans l'allée de la mère Léa, un restaurant très réputé, avec un monsieur qui m'accueille en pleine fête des Lumières. Bonjour Yves.
Bonjour Alain.
Bon, ça y est, le roman est sorti ?
Ah, ça y est, ça fait une quinzaine de jours maintenant qu'il est sorti, il commence à arriver en librairie.
Dis Yves, avant de parler du roman, on parle rapidement de qui tu es, qu'est-ce que tu fais et des 3 livres que tu as déjà sortis ?
Oh, j'ai publié 12 ouvrages, mais 2 beaux livres sur la gastronomie, mais 2 beaux livres sur l'histoire de la gastronomie lyonnaise et les recettes disparues de la gastronomie lyonnaise. Ce dernier livre s'appelait Gastronomie lyonnaise, les trésors retrouvés, qui étaient des vieilles recettes disparues de la gastronomie lyonnaise que j'ai remis au goût du jour et fait reproduire ou revisiter par des chefs étoilés ou MOF, meilleurs ouvriers de France lyonnais.
Tu es écrivain, tu es gastronome, tu es journaliste, tu es quoi en fait ?
Oh bah écoutez, moi je suis surtout un passionné de gastronomie, donc comme j'ai écrit ces beaux livres sur l'histoire de la gastronomie lyonnaise et que j'ai fait ensuite des conférences sur la gastronomie lyonnaise, gastronomie française, finalement je deviens peu à peu un historien de la gastronomie française et je suis surtout aujourd'hui auteur, écrivain parce que je viens de faire un roman, donc c'est tout nouveau, c'est mon premier roman et puis je passe beaucoup de mon temps en écriture et comme conférencier, donc à UNIVA, l'Université catholique de Lyon, à Lyon 3, ça démarre en janvier, et puis à l'EFAB de Lyon pour des étudiants MBA, le premier MBA communication et gastronomie qui vient d'ouvrir en octobre 2022.
Quand on fait des ouvrages sur la gastronomie, comment est-ce qu'on fait pour basculer et devenir écrivain de romans ?
Bien écoutez, c'est assez surprenant. Moi, c'est toujours les projets se naissent les uns après les autres. Quand j'ai écrit l'histoire de la gastronomie lyonnaise, j'ai découvert ces recettes disparues. Donc, j'ai fait un livre avec ces recettes disparues et des belles photos. Et puis, quand j'ai signé avec mon éditeur sur ce dernier ouvrage-là, Gastronomie lyonnaise des trésors retrouvés, je rentre de Clermont-Ferrand. Je venais de signer 2 heures avant et j'entends que le guide Michelin, on est en janvier 2020, avait retiré sa 3e étoile à Paul Bocuse. Ça fait tilt dans ma tête. J'ai dit, moi, je vais rendre à Paul Bocuse et j'avais la matière puisque j'avais travaillé plusieurs milliers d'heures pour écrire mes livres et donc je me suis dit je vais écrire un roman, une vie romancée de Paul Bocuse ou un monde avec Paul Bocuse, un monde sans, un peu comme dans l'histoire du Haut-Château, je ne sais pas si tu as vu cette série, c'est les nazis qui en 1940, dans un monde ils ont gagné la guerre, ils sont aux États-Unis, ils ont envahi les États-Unis et dans un autre monde ils ont perdu la guerre et il y a un passage d'un monde à l'autre, c'était une façon de faire et moi j'ai préféré finalement avoir un cuisinier imaginaire, Jean Meunier, qui est issu d'une dynastie de cuisiniers, la famille Meunier, qui sont cuisiniers depuis des générations au bord du Rhône, et que ce cuisinier vive une vie inspirée de celle de Monsieur Paul.
C'est marrant parce que quand on entend le titre, un monde sans Paul Bocuse, on est quand même à Lyon. Si on tire Paul Bocuse, la ville de Lyon n'a plus de motif d'exister quasiment.
Et nous sommes ici au Hall, Paul Bocuse. Donc, non, mais il y a plusieurs façons. On peut rendre hommage à M. Paul, d'une part, par son absence. S'il était absent de Lyon, on peut voir quelle a été son influence, parce qu'on ne serait pas au Hall Paul Bocuse. Tout d'abord, elles n'auraient certainement pas cette réputation. La ville de Lyon ne serait certainement plus considérée comme la capitale mondiale de la gastronomie. Et donc, en faisant vivre sa vie à un personnage imaginaire, un cuisinier imaginaire qui va atterrir dans un autre lieu, à Dijon, entre autres, eh bien, on peut voir tout ce qu'il va apporter à cette ville. Et c'est tout ce qu'il a apporté à Lyon. En fait, c'est vraiment... Il y a 2 parties de mon roman. Il y a une partie... Première partie du XXe siècle et une seconde partie qui est 1944-2015. La partie 1944-2015 est vraiment un hommage à Paul Bocuse au travers de la vie de Jean Meunier. Alors que la première partie, 1910-1939, c'est plutôt une période inspirée de la vie de son père, si ce n'est que son père n'a pas laissé une trace dans l'histoire phénoménale. Donc j'ai imaginé le père de Jean Meunier. Lui va vivre son métier de cuisinier pour les grands de ce monde et va nous faire voyager dans la grande cuisine française du XXe siècle, puisqu'à suite à un drame familial, ils habitent à Condrieu, les Meuniers, depuis avant la Révolution. Et suite à un drame familial, il va quitter Condrieu et il va aller partir à l'aventure. Et il va se retrouver finalement au Carlton de Cannes avec un disciple d'Escoffier. Il va rencontrer un grand-duc de Russie, Grand-Duc Michel, qui va le prendre à son service pendant la saison d'été, quand le Carlton est fermé, et il va l'emmener en Angleterre. Et là, il va rencontrer Auguste Escoffier. Il va même travailler pour le premier dîner d'Épicure qu'Auguste Escoffier a organisé en 1912. Je ne sais pas si vous connaissez le dîner d'Épicure d'Auguste Escoffier. En fait, déjà, il y a un siècle, on commençait à dire que la grande cuisine française était décadente et qu'elle perdait de son prestige parce que c'était le début de la mondialisation, de l'internationalisation, de l'industrialisation. Et donc, il voulait prouver que la grande cuisine française était toujours vive et digne de son renom. Et donc, il avait décidé d'organiser un dîner d'Épicure, c'est-à-dire c'est un dîner planétaire, 4000 convives réunis dans 37 restaurants, dans 37 pays, en même temps, avec le même dîner, et que tenu secret jusqu'au dernier moment. Eh bien, Georges Meunier, qui est le père de Jean Meunier, va être un des trois chefs de cuisine du grand Auguste Escoffier pour ce premier dîner d'Épicure au Cécile Hôtel de Londres. Et ça, c'est que le début, hein, puisqu'après, il va continuer son voyage.
Est-ce qu'on dit Monsieur Paul ou est-ce qu'on dit Paul Bocuse ?
Bah, les intimes, non. Tous les gens qui ont un peu de côté affectif avec Paul Bocuse disent Monsieur Paul. Tous les cuisiniers disent Monsieur Paul. Les gens qui le connaissent peu ou qui ne l'ont pas connu disent plutôt Paul Bocuse. Mais je crois que c'est Monsieur Paul, c'est un peu comme la mère à Lyon. La mère, elle a cette fonction nourricière, hein, puisqu'elle nourrissait les soyeux, après elle nourrissait les canuts, elle nourrit le peuple. C'est elle qui apporte à manger pour la famille. Eh bien, Monsieur Paul, c'est un peu pareil. Quelque part, c'est une partie, une relation d'intimité entre les Lyonnais, tous ceux qui l'ont connu, tous les chefs de la planète qui l'ont connu, qui l'appellent Monsieur Paul, parce qu'ils voulaient qu'on l'appelle comme ça dans le métier.
Est-ce qu'un monde aurait pu exister sans Paul Bocuse ?
Ah oui, bien entendu, mais on ne peut pas faire sans, puisqu'il a quand même, il y a eu un certain nombre, quand je fais des conférences sur les grands chefs français, je parle bien sûr du premier qui est Antonin Carême, c'est le 19e siècle, le second qui a réglé de la grande cuisine française pour le 20e siècle, c'est Auguste Escoffier. Il y a trois grands chefs de l'entre-deux-guerres, Fernand Point, Alexandre Dumaine et Pic à Valence, bien que c'est Fernand Point qui a surtout marqué les esprits. Et après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 60, c'est Paul Bocuse qui a régné pendant 50 ans. Donc ce sont ces gens-là qui ont vraiment porté la gastronomie française à travers le monde, parce que ça fait un siècle qu'ils portent la gastronomie française à travers le monde, qu'ils l'ont exportée. Et puis, même à Lyon, on a eu la mère Filloux, la mère Brasier, et on a eu Paul Bocuse, qui ont porté la gastronomie lyonnaise pendant un siècle. C'est bien pour ça que je suis parfois inquiet, parce que Paul Bocuse n'étant plus là, et comme les élites aujourd'hui ne s'intéressent pas à la gastronomie, hein, il vous aura pas échappé que la ville n'organise jamais d'événements gastronomiques. Ce sont des associations, ce sont des confréries, ce sont des regroupements, des sociétés d'événementiel. Mais la ville n'a pas de stratégie autour de la gastronomie, et n'en a jamais eu d'ailleurs, sauf dans les années 1930. Hein. Entre 1930 et 1940, la gastronomie est un axe stratégique. Pourquoi ? À Lyon, parce qu'il fallait trouver un relais à l'industrie de la soie, qui avait périclité avec la crise financière américaine en 1929, qui s'est répercutée en France dans les années qui ont suivi. Et donc, il a fallu trouver un relais de croissance à cette industrie de la soie qui faisait nourrir près de la moitié de la ville, qui faisait manger la moitié de la ville. Et donc, ils ont misé sur l'alliance du tourisme de montagne et de la gastronomie. La mère Brasier a eu deux fois trois étoiles. Ils ont lancé les journées de la cuisine lyonnaise, un premier salon lancé par la municipalité. On a créé les toques blanches en 1936. Et puis, en 1935, Kurnonski a consacré Lyon, capitale de la gastronomie. C'est vraiment la décennie où les élites se sont mobilisées autour d'un axe stratégique sur la gastronomie comme un axe économique. Mais depuis, ça n'a jamais été le cas et c'est encore pas le cas. Et je crains bien que si on ne fait rien, dans 20 ans, ce titre va disparaître dans les oubliettes, parce qu'il y a quand même beaucoup de pays qui veulent nous ravir le titre de pays de gastronomie et beaucoup de villes qui veulent être considérées comme une ville de gastronomie. Donc nous, on était consacrés, on n'y peut rien, on nous a donné ce titre. Prenons-le et faisons-le vivre. Il faut vraiment se mobiliser pour le conserver à l'avenir. Hein, parce que dans une génération, dans 20 ans, quand tous les disciples de Paul Bocuse seront plus là, qui dira que le Syrah sera toujours à Lyon, que le Bocuse d'Or ne sera pas à Paris, et la Coupe du Monde de pâtisserie qui est aujourd'hui gérée par des Parisiens et non plus par Gabriel Paillasson et des Lyonnais. Moi je dis, il y a un risque fort que ces événements partent de la ville un jour ou l'autre.
Alors je vais rebondir sur ce qui s'est passé le week-end dernier, parce que même pour le Téléthon, Dijon a été très présent et Dijon est en train de prendre le titre de capitale mondiale de la gastronomie. Et puis on a eu des infos hier concernant l'ouverture de la Cité du Vin à Beaune. Y a de quoi s'inquiéter, parce que là ça veut dire que Paul Bocuse n'étant plus là, tout va partir.
Ben, c'est exactement ce que je dis de mon roman. C'est pour ça que j'ai choisi Dijon comme destination de la famille Meunier, ou de Jean Meunier, qui va devenir meilleur ouvrier de France, 3 étoiles, cuisinier du siècle. Il va faire la gloire des produits dijonnais, cassis, pain d'épices et moutarde. Il va inventer un nombre incalculable de recettes. Il va créer des événements, le Meunier d'or, hein, le New Wine Day. C'est la quatrième glorieuse. C'est le 15 novembre, c'est le passe-tout-grain nouveau. Donc le New Wine Day. Ben oui, mais ce n'est pas un hasard si j'ai choisi cette ville. C'est parce qu'en 1950, je vous expliquais que dans les années 30, Lyon avait vraiment une réputation phénoménale. Et il y avait 4 restaurants 3 étoiles, il y avait 5 restaurants 2 étoiles à Lyon. Sans compter Fernand Point à Vienne, qui était juste à côté, où la mère Bourgeois a prié dans l'Ain. Et donc, en 1950, la ville a oublié la gastronomie. Les élites ont oublié. Et donc, c'était la priorité, c'est transport, pharmacie, chimie. Heureusement pour Lyon, que Paul Bocuse avait déjà été formé chez la mère Brasier, et que 10 ans après, en 1965, il a eu ses 3 étoiles, et il a eu la destinée qu'on lui connaît. Mais en 1950, Lyon ayant oublié la gastronomie en termes de stratégie, les mêmes qui avaient consacré Lyon capitale de la gastronomie en 1935 ont dit non, la nouvelle capitale de la gastronomie maintenant, c'est Dijon. Pourquoi ? Parce que Dijon organisait les états généraux de l'alimentation en 1950. La foire gastronomique de l'époque prenait une ampleur considérable. Il y avait quand même un terroir fabuleux à Dijon. On parle du terroir lyonnais, mais à Dijon, on a un terroir aussi fabuleux. Et on a des vins qui sont quand même les plus célèbres, les plus fameux du monde depuis 5 siècles. Et donc, Marcel-Émile Granchet, qui avec Curnos, qui avait consacré Lyon capitale de la gastronomie en 1935, a dit la nouvelle capitale de la gastronomie, c'est Dijon. Alors moi, j'ai capitalisé dans mon roman sur ces dires pour en faire vraiment une capitale, parce qu'il y a eu un certain nombre d'événements manqués. D'abord, Dijon a été installé, c'est une ville qui est en dehors de la Nationale 6 et de la Nationale 7. Or, tous les grands relais de gueule, avec l'avènement du tourisme et de la voiture, de l'automobile, se sont installés sur cette Nationale 6, Nationale 7. Donc déjà, Dijon, ils ont déjà eu un gros truc. Deuxième chose, c'est qu'ils n'ont jamais eu de chef. Après, le dernier chef, enfin, il y a eu Biou, mais dans les années 50, c'est Henri Racouchot qui avait 2 étoiles, qui était un chef réputé. Mais il n'y a pas eu de chef 3 étoiles qui a porté la gastronomie dijonnaise pendant 50 ans. Jamais il y a eu de chef de 3 étoiles. Et puis, il y a eu un certain nombre de rendez-vous manqués, parce que je raconte dans mon roman d'ailleurs, qu'avant le Syrah, qui est né dans les années 80 à Lyon, puis après, à la fin des années 80, le Bocuse d'Or et la Coupe du Monde de pâtisserie qui ont fait aussi la gloire de Lyon. Eh bien, Dijon avait eu, le Syrah n'existait pas. Et il y avait un salon des métiers de bouche dans les années 80, mais 10 ans, 15 ans avant, se tenait à Dijon le SIVA, Salon International des Vins et de l'Alimentation. C'est comme le Syrah, exactement pareil, dédié aux professionnels. Et les Dijonnais ont fait on fait cet événement une année, en 1974, je crois, le SIVA. Ça a eu un retentissement extraordinaire, si ce n'est qu'ils ont préféré jouer la carte du consommateur avec la foire gastronomique et ne pas jouer la carte du professionnel. Ils n'ont pas renouvelé le SIVA. Or, c'est un rendez-vous manqué, parce que c'est celui-là qui aurait peut-être pu héberger des grands concours demain. C'est ce qu'a fait le Syrah. Et donc, maintenant, si on arrive à notre période contemporaine, Lyon n'a pas voulu construire la cité de la gastronomie en 2013, hein, ça on le sait. Il a fallu tordre de bras à certains dirigeants pour qu'elle soit lancée, et on voit ce que ça a donné. Il y a eu le salon de la gastronomie qui a été lancé 1 an, 2 ans, pouf, c'est mort. Un salon de la gastronomie avec 100 exposants à Eurexpo, qui ça va intéresser ? Personne. Qui sait qu'il va aller se perdre à Eurexpo pour 100 exposants ? C'est pas possible. Et donc Dijon, c'est vrai, a pris un certain relais par rapport à ça. Ils ont créé la première cité internationale de l'alimentation et du vin. Et je trouve que c'est bien pour Dijon. En tout cas, ça allait dans mon sens, dans le sens de mon roman. Bon, je considère Lyon comme la capitale de la gastronomie quand même, parce que moi qui suis dijonnais, je peux me permettre de dire ça. C'est pour ça que je dis ça. Je suis dijonnais. Quand on était à Dijon, on avait un mythe un petit peu de la Dijon, capitale de la gastronomie. Moi, dans ma campagne, à 50 km de Dijon, on disait la gastronomie, c'est Dijon. C'est comme ça, c'est tout. Mais en fait, quand je suis arrivé à Lyon en 86, j'ai compris que c'était pas la même chose. À Lyon, on mangeait bien dans tous les restaurants. Il y avait un nombre incalculable de spécialités. Il y avait encore les maires et tout. Et il n'y avait pas cette histoire à Dijon. Donc, il n'y a pas photo. Pour moi, c'est bien Lyon, la capitale de la gastronomie. Faisons attention à l'avenir. Mais c'est bien que Dijon essaie de relever la tête. Hein, je trouve que c'est parfait.
Il y a plein de championnats du monde qui traînent sur Lyon maintenant. Il y a le pâté croûte qui vient d'être gagné par un Japonais en plus. Il y a aussi, il y avait le championnat de... Il y avait là-bas le mondial de la praline. Il y a plein de choses comme ça.
Je trouve que c'est très bien. Il y a des événements qui sont purement marketing. Bon, moi, je m'y intéresse peu. Quand c'est du marketing, c'est du marketing. Mais le championnat du monde du pâté croûte, par exemple, relancé en 2009 par une confrérie. Bon, il y a des gens connus qui ont lancé ce championnat du monde, qui était local, national, puis international, puis aujourd'hui qui fonctionne comme le Bocuse d'Or avec des sélections continentales et puis une finale à Lyon. Mais c'est formidable. C'est extraordinaire, comme dirait M. Paul. C'est formidable, mais effectivement, c'est même plus que ça. On a cette confrérie, ce championnat du monde a sauvé le pâté croûte. C'était quand même un emblème de la ville, un emblème avec, parce qu'on avait l'oreille de la belle aurore ici quand même, c'était juste à Lyon hein, il y a encore 10 ans. Et il y a 10 ans, vous preniez un pâté croûte, 90% des pâtés croûtes étaient industriels. Chez les charcutiers aussi, nul ne faisait son pâté croûte, c'était fini, terminé, plié. Et donc grâce à ce championnat du monde et à l'engouement que ça a suscité, la capacité qu'ils ont eu, cette confrérie a eu à intégrer des grands chefs, des gens de toute la planète, fait qu'aujourd'hui, bien, tous les charcutiers font leur pâté croûte, tous les artisans, même les pâtissiers font un pâté croûte. Ça fait 3 ans que ce sont les Japonais qui gagnent. Alors, moi, je suis désespéré que ce soit des Japonais. Et surtout, c'est des purs Japonais. Ils viennent du Japon. Ceux qui viennent gagner, ils ne parlent pas français. Hein. On a eu Jérémy Crozet, là, qui a concouru il y a 2 ans. L'année dernière, il était 3e. Cette année, 2e. Cette année, il n'est pas premier. Et j'espère que ça sera pour l'année prochaine. Mais je trouve qu'on a sauvé le pâté croûte. On a sauvé le pâté croûte. Donc, bravo à ce championnat du monde du pâté croûte. Concernant le mondial de la praline, bah, pourquoi pas, ça met en valeur la praline, si ce n'est que c'est quand même totalement différent. La praline n'est pas à risque. La praline ne va pas disparaître puisqu'il y a des confiseurs industriels ou pas, qui fabriquent des pralines. Et puis, de toute façon, on les concasse pour faire tous les dérivés de la praline, la tarte, etc. Ce n'est pas un produit aussi compliqué. Une fois qu'on a les pralines, les dérivés de la praline en pâtisserie ou en réaliser des desserts, ce n'est pas très compliqué. Faire une crème brûlée à la praline, un cake à la praline, une tarte à la praline, ce n'est pas de la grande cuisine. Donc, je dis, c'est bien parce que ça met en valeur la praline, spécialité lyonnaise, mais comme je le dis souvent, des fois, on me dit, mais c'est une spécialité ancestrale. Je dis pas du tout. La praline, ça existe à Lyon depuis 35 ans, depuis que Alain Chapelle a créé son livre. La cuisine, ce n'est pas que des recettes, où il a mis une recette de tarte à la praline. Or, à Lyon, on n'avait pas de dessert. On avait de la gastronomie, mais à partir du plat de viande, c'était la mort. On avait la cervelle de canut, parce qu'on ne parlait même pas de la rigotte de Condrieu, tout ça, parce qu'on n'en trouvait pas. Hein. Il y avait la cervelle de canut et il y avait les bugnes, pendant carême. Et il n'y avait rien d'autre. Donc quand il y a eu là, cette... Parce qu'à la chapelle, était très dans le giron de M. Paul et dans le giron lyonnais quand même. Et donc les Lyonnais ont pris cette tarte à la praline et l'ont déclinée. Alors qu'il y a eu Sève, il y a eu Jocteur, hein, qui ont fait la tarte à la praline. Et après, tout le monde a décliné la praline sous toutes ses formes pour faire un dessert à Lyon de spécialité lyonnaise, à tel point qu'on croit que c'est une spécialité lyonnaise. Alors que la praline, à l'origine, la brioche à la praline, le Saint-Genis, ça vient de Saint-Genis-sur-Guiers, hein, la frontière entre la Savoie et l'Isère. Et moi, dans mes recherches, c'est la maison Labulie qui fait toujours, c'est Saint-Genis. Ils avaient 2 dépôts en 1895 à Lyon. Et c'est comme ça que Lyon a connu la praline. Il y avait 2 dépôts de brioche Labulie qui étaient à Lyon. Et puis voilà, mais on n'a jamais eu de praline à Lyon. On en fabriquait, bien sûr. Je crois avoir lu que Sève, quand il a repris sa pâtisserie à Champagne-Mont-d'Or, il a retrouvé une machine pour torréfier les pralines, une espèce de bétonnière, là, pour torréfier les pralines. Et donc, il a recherché, ça datait de 1905. Il y avait eu des gens qui faisaient des pralines. Mais ce n'était pas une spécialité lyonnaise. Voilà. Mais on s'est bien approprié, on est très fort. Bravo.
Est-ce que Jean Meunier a des enfants ?
Ah oui, il a eu des enfants. Ben Jean Meunier, il a une vie privée. Donc Jean Meunier, qui est mon cuisinier, hein, cuisinier imaginaire, inspiré de Paul Bocuse, il a eu une vie, bien sûr, personnelle assez trépidante. Donc il a eu une fille avec son épouse qui vient du Morvan. D'ailleurs, ils sont installés à Dijon. Mais bon, comme il a une vie trépidante, il a eu aussi un garçon avec une autre de ses compagnes. Et voilà, donc il a un garçon, une fille, de deux relations. Bon, il a eu d'autres relations, hein, quelques-unes. Jean Meunier, c'était un gros gourmand, hein, c'était un prédateur, un chasseur.
Un bon vivant, un hédoniste. Les enfants sont évidemment dans la cuisine, dans la gastronomie.
Ben, écoutez, oui, bien sûr, puisque Jean Meunier, il a eu une fin de vie, il a voulu une fin de vie Il a décidé de sa fin de vie. Il a décidé de comment il allait organiser la fin de sa vie. Donc c'est vrai qu'il a distribué son patrimoine entre ses deux enfants. Et puis, et je ne vais pas vous raconter la fin, mais il a imaginé une fin plus glorieuse où c'est lui qui décidait de sa fin de vie. Il ne voulait pas tomber malade, ne plus pouvoir sortir auprès de ses clients dans son restaurant. Parce que si vous allez prendre des photos avec vos clients japonais, internationaux et un déambulateur, ça ne le fait pas. Donc lui, il a dit non. Je vais prendre des décisions, ma fin de vie elle sera différente. Et donc voilà, je ne vais pas raconter la fin de mon roman, il faudra le lire pour ça.
Non, mais ça veut dire que quelque part, en un mot, est-ce qu'il risque d'y avoir un tome 2 ?
Ah non, il n'y aura pas de tome 2, ça c'est certain. Non, parce que la vie de Jean Meunier s'arrête en 2015. Et donc, 2015, c'était hier. Hein. Donc voilà, donc non, il n'y aura pas de tome 2. Et même concernant un roman. Je ne suis pas prétentieux, donc c'est mon premier roman. Je vais attendre quelques mois les réactions, les retours que je peux avoir des lecteurs, parce qu'on ne s'improvise pas écrivain. Moi, je suis auteur avant tout. Écrivain, c'est un nouveau challenge. Voilà, je suis humble et donc je ne sais pas du tout. Je suis parti sur un nouveau projet, mais qui est un projet d'auteur et non pas un projet d'écrivain.
Est-ce que tu ne risques pas de choquer les consciences à Lyon, un monde sans Paul Bocuse quand même?
Oui, en fait, c'est assez surprenant ce titre, mais ça fait 2 ans que je travaille à ce roman et beaucoup de mes amis me demandaient, et le dernier c'était en février dernier, avant que je l'envoie aux éditeurs, et ils me disent « mais c'est quoi ton roman ?» Et moi je racontais un peu l'histoire, mais je dis « mais en fait c'est un monde sans Paul Bocuse, quoi. Il n'y a pas que ça, mais la moitié du roman c'est un monde sans Paul Bocuse. » Et puis je lui expliquais à Jean Meunier qui vit un peu sa vie, etc. Et j'ai un ami qui me dit « mais pourquoi tu titres pas un monde sans Paul Bocuse ?» Eh ben, j'ai dit banco, je me suis dit effectivement c'est le bon choix parce que c'est ce que j'ai voulu écrire et finalement c'est aussi plus vendeur parce que ça interpelle. On dit, j'aurais parlé cuisinier du siècle, le pape de la gastronomie, ça n'interpelle pas, mais un monde sans Paul Bocuse, ah bon qu'est-ce que c'est ? Donc on peut se poser la question. Et j'ai trouvé que c'était un bon titre, donc d'ailleurs je l'ai remercié dans les remerciements à la fin de mon roman, j'ai remercié cet ami parce que finalement c'est lui qui a choisi le titre de ce roman. Alors après, voilà donc... excusez-moi. Voilà ce que je pouvais dire sur ce sujet-là. Hein. Je pense que c'est un bon titre. Ça correspond bien à ce que j'ai écrit. Parce que, comme je le dis, Lyon, dans mon roman, Lyon, c'est un peu le désert. Parce que, à la place de Paul Bocuse, dans les années 60, la mère Brasier, il y a longtemps qu'elle a pu ses 3 étoiles. La mère Fillot, elle est morte. Tous les chefs doublement étoilés, triplement étoilés de l'entre-deux-guerres, ils ne sont plus là. Et c'est le désert. C'est le désert. Parce qu'on ne parle plus de Lyon. On parle des bouchons sous Fourvière, sur la Nationale 6, on parle pas de Lyon en matière de gastronomie. Et aujourd'hui, d'ailleurs, le grand succès de Jean Meunier, c'est que Jean Meunier, bien sûr, dans les années 90, fin des années 90, il s'est lancé un peu tardivement dans les brasseries. Donc il a créé, il a eu une idée, il n'a pas créé le nord, le sud, etc. Il a créé le ch'ti Jean Meunier, donc c'est la cuisine du nord, le petit niçois Jean Meunier, etc. Le breton Jean Meunier, donc il a créé un peu la cuisine régionale aux 4 coins de Dijon. Puis après, il a déployé dans la France entière des bambourguignons, le bambourguignon Jean Meunier. Parce que le bambourguignon, je ne sais pas si vous connaissez, mais le bambourguignon, c'est l'hymne bourguignon au Dijonais. C'est la, 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 l'air. Quand on boit un coup, quand on fait l'apéro, on fait le bambourguignon. Et il a créé des bambourguignons. Et donc, en fait, ça, c'est ça, vraiment la gloire. C'est quelque part, comme il était originaire de Condrieu, il a été formé par Marius Vétard. Son père s'est formé chez la mère Fillou. Et donc, on va dans les cuisines de ses chefs. Et donc, son grand succès, c'est d'avoir réussi à racheter le restaurant de la mère la mère Guy, qui était à la Mulatière. Vous savez que c'est Roger Roucou qui tenait ça jusqu'en 1995. Et le restaurant, il était en passe d'être vendu à une société immobilière pour construire un immeuble. Mais comme moi, c'est un roman, effectivement, Jean Meunier a réussi à racheter le restaurant avant qu'il soit détruit. Et il en a fait un bambourguignon, Jean Meunier. Et donc, il a poursuivi la gloire de la mère Guy, qui était la première mère lyonnaise. Et donc, ce bourguignon, cuisinier du siècle, s'est installé en terre lyonnaise, ancienne capitale mondiale de la gastronomie.
Il y a juste un truc que j'aimerais que tu expliques, parce que tout le monde ne sait pas nord-sud, est-ouest.
Bien, Paul Bocuse a commencé par créer des brasseries, le nord entre autres, parce qu'il avait fait une partie de son apprentissage au nord, il avait travaillé au nord quand il était jeune, et puis après il a créé le sud, l'est et l'ouest, il a créé ses 4 premières brasseries à Lyon, selon les 4 points cardinaux. Alors effectivement, Jean Meunier a été un tout petit peu plus créatif, puisque lui il a pris le ch'ti pour le nord, le breton pour l'ouest, l'alsacien Jean Meunier pour l'est, et puis le petit niçois, le petit Nice pour le sud.
Est-ce que Jean Meunier est présent ici, là où on se trouve en ce moment, c'est-à-dire dans les Halles ?
Non, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas encore cherché, d'ailleurs. Il faudrait que je cherche. Hein.
Les Halles, ça représente quoi? Les Halles auraient pu exister sans Paul Bocuse?
Ah ben, de toute façon, déjà, les Halles de Lyon, bon, ça a toujours été un repère de bons produits. Hein. Ça, quand même, c'est un repère de bons produits. Donc, on a des produits de grande qualité, c'est indéniable, à des prix qui ne sont quand même pas donnés, quoi qu'on en dise, qui sont relativement chers et pas accessibles à tous. Mais depuis qu'ils ont refait les Halles de Lyon en 2006, on a chaud maintenant, avant on se caillait, hein, et maintenant c'est climatisé, enfin c'est chauffé en tout cas, et que Paul Bocuse a donné son nom aux Halles, la fréquentation des Halles a explosé. C'est un point de visite incontournable aujourd'hui, on le voit, hein, on est un jeudi matin, vendredi matin c'est la fête des Lumières, bon, il y a du monde plein les rues, des Japonais, des Chinois, on voit que c'est, voilà, ça dope la fréquentation. Moi, le patron des Halles, M. Polidori, m'a dit qu'il y avait certains week-ends 10 000 personnes et que je crois qu'il y a 5 millions de visiteurs par an. Je pense que c'est 4 à 5 fois plus que ce qu'il y avait avant. Donc non, les Halles, Paul Bocuse, ne seraient pas ce qu'elles seraient sans monsieur, ce qu'elles sont aujourd'hui sans monsieur Paul. Et en plus, il en a tellement parlé dans ses émissions de radio ou de télé, même si on ne le voyait pas toujours, mais il savait vendre les produits lyonnais, comme il a fait la réputation de la mère Colette Sibilla. Hein, Madame Colette, sa réputation, c'est grâce à Monsieur Paul. La chocolaterie Bernachon, Maurice Bernachon était le chocolatier le plus célèbre au Japon. C'est grâce à Monsieur Paul qu'il l'a emmené au Japon. Jocteur et sa tarte aux pralines, bah, c'est Monsieur Paul qui l'a emmené chez les... Et puis, je pourrais en citer les vins du Bœuf, le Beaujolais. Si Monsieur Paul n'avait pas servi les vins de Georges Dubœuf dans toutes ces réceptions qu'il faisait aux États-Unis ou au Japon, eh bien, peut-être qu'il n'en serait pas là. Je pense qu'il a fait la gloire de ses amis lyonnais, et c'est bien, et il a fait la gloire des Halles de Lyon, Paul Bocuse.
Donc c'est difficile d'envisager un monde sans Paul Bocuse.
Ah oui, bien sûr, mais ce qui est intéressant dans ce roman, c'est avoir un monde imaginaire où je veux lui rendre hommage. Hein, voilà, je lui rends hommage par son absence, effectivement.
Comment est-ce qu'on fait pour récupérer le livre?
Eh bien, le livre, on peut le trouver sur les plateformes, que ce soit Amazon, des sites Cultura, Fnac, etc. On peut le trouver aussi en le commandant chez son libraire, hein, aujourd'hui. Voilà, donc c'est que ça vaut 22,90 €. Et puis, c'est publié aux éditions Saint-Honoré.
Je te remercie pour tout ça.
Merci beaucoup, Alain.